Une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique, intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr. Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque avec notre dossier qui est consacré au terrorisme en kiosque et également sur notre site internet en vous abonnant, vous aider à développer Conflit. Vous abonner est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre ainsi de vous proposer l'ensemble de ces émissions en format podcast ou en format vidéo qui vous sont proposés gratuitement sur notre site internet. Pour vous abonner, vous pouvez donc vous rendre sur notre site revueconflit.com à la page abonnement où vous trouverez notamment des abonnements étudiants et des formules pour 1 an ou 2 ans. Alors à Conflit, si nous traitons des sujets géopolitiques proprement dit, des sujets militaires, des sujets stratégiques, nous aimons aussi aborder les sujets culturels parce que la culture est bien évidemment un élément essentiel de l'activité humaine et par la culture, on apprend beaucoup de choses et on découvre de nombreuses choses. Et donc je vous propose cette semaine de parler du jazz, donc d'une cette forme musicale qu'est le jazz, mais d'en parler avec une approche un petit peu originale grâce à notre invité, Jean Samovitch. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit, d'avoir de nouveau accepté notre invitation puisque nous avions eu l'occasion de faire une émission précédente sur les questions grammaticales de sexe et de genre. Et nous n'allons pas complètement abandonner la langue en abordant votre ouvrage qui vient de paraître aux presses universitaires du Midi, qui est donc rattaché à l'Université de Toulouse, qui s'intitule « Jazz Talk, approche lexicologique, esthétique et culturelle du jazz ». Alors vous êtes un amateur de jazz, un grand connaisseur de jazz, et dans votre ouvrage, vous abordez évidemment l'histoire du jazz et vous présenté d'ailleurs de grands artistes contemporains. Mais votre ouvrage est original dans ce sens où votre approche est celle qui est la vôtre, puisque vous êtes professeur à l'université, vous êtes linguiste, et donc vous abordez le jazz par les mots, par la langue, par les termes lexicaux qui sont utilisés. Et tout ça fait quelque chose d'extrêmement intéressant que nous allons aborder au cours de notre émission. Avant d'aborder ces sujets lexicologie proprement dit, peut-être revenir sur l'origine du jazz. Où est né le jazz? À quel moment? Pourquoi est-ce qu'il s'est développé? Quelle est un petit peu l'origine de cette musique?
Oh, c'est une vaste question parce que précisément, comme toutes les origines, elles sont graduelles et multifactorielles. Donc, savoir comment naît le jazz, c'est au fond aussi savoir ce qu'on appelle jazz. Et c'est là où il y a un problème, ou en tout cas une question linguistique, c'est de savoir au juste, quand on dit jazz, est-ce que on entend quelque chose de bien défini, et est-ce que ce mot a tout à fait le même sens qu'il pouvait avoir il y a un siècle? La naissance du jazz et la naissance du mot jazz, c'est pas la même question, et elles sont souvent malheureusement confondues. C'est-à-dire que ce qu'on a fini par appeler jazz a eu d'autres noms, et inversement, ce qu'on appelle jazz n'est souvent pas du jazz. Ça rejoint une question méthodologique de fond, c'est est-ce qu'on parle du mot ou est-ce qu'on parle de la chose, et souvent on confond un petit peu les deux. Donc il faut bien voir que le jazz est une musique de synthèse, c'est-à-dire qu'il est la synthèse de beaucoup d'autres musiques, des musiques populaires, de musiques savantes aussi, de pratiques religieuses, de fanfares, de musique classique, tous les ingrédients en fait du jazz les musiques folkloriques ont convergé à un moment de manière tout à fait graduelle encore. En gros, on peut voir dans les pratiques notamment religieuse le ferment d'une certaine expressivité et c'est lié Dvorak le remarquait dès 1893 il remarquait justement qu'il y avait une spécificité du traitement musical afro-américain. D'ailleurs, son mot dans cette fameuse interview de 1893, c'était Negro American, et c'était tout à fait élogieux. Et pour lui, c'était aussi ce qu'il appelait il a parlé en fait d'une tradition noble, d'une tradition presque savante, en tout cas. Qui était en développement. En fait, il a remarqué très très rapidement qu'il y avait dans le traitement afro-américain du matériau musical une originalité proprement américaine qui était amenée à se développer. C'est ce qu'il disait. In the Negro melodies of America, I discover all that is needed for a great and noble school of music. Donc, très rapidement, il y a une conscience que va se développer quelque chose d'original et de proprement américain, j'insiste là-dessus, pour l'origine du jazz. Il s'agit vraiment d'une synthèse américaine qui n'a eu lieu nulle part ailleurs, et c'est ça l'originalité du jazz, c'est de s'être développé à un moment particulier, dans des conditions sociales particulières.
Est-ce que ça concerne uniquement les Afro-Américains ou est-ce qu'on a aussi des WASP, donc des Blancs américains qui à l'origine sont dans le jazz?
Vous posez bien la question. Souvent, en fait, on réduit le jazz à une espèce d'iconographie afro-américaine, ce qui est largement vrai, bien sûr, mais qui relève d'une dynamique beaucoup plus complexe que cela. Comme je disais, c'est une musique de synthèse, et ça veut dire que la matière de cette synthèse, elle est multiple, et sociologiquement, on pourrait résumer en quelque sorte l'émergence du jazz par rapport, aux pratiques religieuses ou aux pratiques folkloriques rurales. En fait, les migrations successives de la population du noir du sud des États-Unis vers le nord et simultanément à la fin du 19e siècle, l'arrivée de nombreuses populations immigrées d'Europe, notamment juifs d'Europe de l'Est, mais aussi irlandais, italiens, va converger dans les grandes métropoles du Nord. Donc on a un mélange, en fait. Il y a aussi une synthèse culturelle très, 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 très nette. Cette synthèse sociologique fait que, enfin, c'est peut-être aussi l'originalité du jazz, c'est que tout en étant étiquetée afro-américaine, tout en étant marginalisée dans son émergence, c'est une marginalisation qui a été paradoxalement dynamique et porteuse d'émancipation. Ce qu'on a appelé le Jazz Age, c'est-à-dire l'après-Première Guerre mondiale, c'était un moment de, justement, où on s'est adonné à beaucoup de divertissements musicaux, où le jazz a représenté une sorte de défoulement, et qui a traversé la sociologie américaine, et à diffuser du coup largement la culture afro-américaine sous diverses formes, hein, certaines aussi commerciales. on voit aujourd'hui que ça reste un trait de la culture afro-américaine, ce développement dans le monde artistique, qui a toujours été particulièrement dynamique. Mais pour répondre plus précisément à la question de la mixité sociale, là aussi, il faut prendre en compte la géographie américaine. On n'a pas la même configuration en Alabama, à San Francisco, à New York ou en Louisiane. Ce ne sont pas les mêmes données culturelles, c'est pas la même sociologie. Et parler de musique sans prendre en compte ces dynamiques locales aussi, on peut facilement caricaturer les choses. Retenons avant tout l'idée que sur le plan esthétique et proprement musical, le jazz est plutôt lié en fait, je dirais, à la ségrégation et au fait qu'il y ait un développement culturel séparé, notamment dans l'Église, qui va donner lieu à des formes et à une expressivité particulière, mais avec un matériau qui est ni blanc ni noir. La question raciale n'a pas de sens en esthétique, mais disons que culturellement, on a des éléments qui sont ceux de la musique occidentale, qui sont les ingrédients dominants et qui vont être développés dans un cadre afro-américain, mais avec beaucoup de mixité. La notion de créolité s'applique aussi beaucoup au développement du jazz dans le sud des États-Unis, en particulier en Louisiane. On pourrait parler assez longtemps du sens du mot créole dans le développement du jazz.
Alors, vous l'avez dit, il y a la chose, le jazz, et puis il y a le mot jazz en tant que tel. Là aussi, vous l'avez un petit peu évoqué en début d'émission, c'est assez complexe de dire pourquoi le jazz est appelé jazz et d'où vient ce mot de jazz. Et on va y revenir au cours de l'émission, mais il y a beaucoup de mots qui viennent de l'oralité, beaucoup de mots qui ont été créés, des concepts aussi qui sont intraduisibles. Le terme même de jazz, quelle est son origine? Comment s'est-il formé?
Alors, c'est un des grands mystères qui existe depuis l'origine, en fait. Et ça a toujours été un mot mystérieux. On le voit d'ailleurs assez intuitivement. On voit bien que ça n'est pas un mot qui est spontanément déchiffrable. C'est précisément ce qui a fait son succès, c'est que c'était un mot, quand il est apparu, qui était un petit peu bizarre. C'est un mot à la mode, en fait. L'origine ultime, comme pour tous les mots, on peut remonter indéfiniment sans jamais la trouver, mais ce qui est documenté de manière factuelle, ce sont les premiers mots, les premières occurrences du mot jazz, c'est 1912, à l'écrit, il y en avait sans doute avant, mais la première trace qu'on a, elle apparaît sur la côte ouest et elle apparaît dans le baseball, pour désigner un type de lancer de balle. Un joueur de baseball qui parle de sa jazz curve, en gros pour désigner une espèce d'effet qui donne à la balle et qui la rend injouable. Donc on est assez loin de la musique, on n'est pas du tout dans le monde afro-américain, et c'est là aussi où l'histoire du mot et l'histoire de la musique ne sont pas forcément en rapport. Donc c'est un mot qui va être utilisé de manière un petit peu argotique, de manière plaisante dans le domaine du sport, qui va être développé dans plusieurs journaux qui s'amusent de ce mot-là, ne désigne rien de bien précis, mais qui désigne une forme d'enthousiasme, de déchaînement, de bizarrerie. Et l'emploi répété de ce mot va en faire un mot marrant, tout simplement, qui va être pris et qui va désigner n'importe quoi. C'est un peu, si vous voulez, comme un mot comme Schmilblick en français. Ça démarre comme quelque chose d'un petit peu argotique et étrange, et qui ne désigne rien. et puis ça désigne tout et n'importe quoi. Donc on a une période dans les années 1912-1916 où le mot se répand, où il prend des connotations graveleuses, parce que justement c'est un mot auquel on fait dire ce qu'on veut, et donc il prend assez rapidement un sens sexuel, en plus de son sens lié donc à l'enthousiasme. Et il va se corréler à la musique de manière tout à fait accidentelle, on le voit de manière très graduelle, parce que tout simplement des musiciens vont l'utiliser de manière argotique, vont l'utiliser ensuite dans des titres, et ça va se stabiliser dans les emplois, des noms de groupes, etc. C'est un mot très à la mode en 1916, 1917, et voilà, il va se stabiliser en lien avec la musique, mais encore une fois, sans qu'il y ait de lien fondamental entre le mot et la musique. C'est pour ça, là encore, que le Jazz Age, c'est le nom de cette période, mais ça ne désigne pas forcément la musique elle-même telle qu'on va la définir comme musique afro-américaine. En gros, jazz, dans les années 20, ça désigne toute musique de danse, et ça, on parle aussi de, certains parlent de ragtime, certains parlent de foxtrot, on parle de jump music, le mot swing va aussi apparaître. Bref, tous ces mots-là sont plus ou moins équivalents à un moment historique, et désignent des musiques qui ne sont pas forcément, du coup, afro-américaines. Celle qui va être proprement afro-américaine, c'est ce qu'on va appeler hot jazz. Hot est un terme qui aujourd'hui est un petit peu tombé en désuétude, mais qui a une vraie valeur musicologique, parce que c'est un mot qui désigne proprement la rythmicité swing et l'expressivité blues. C'est ça que signifie hot. C'est pas pour rien que la revue créée par Charles Delaunay et Hugues Panassi en 1935, Jazz Hot en France, la plus vieille revue de jazz au monde, qui continue d'ailleurs aujourd'hui en ligne, eh bien, c'est ce terme-là qui voulait résumer cette spécificité esthétique et culturelle. Donc aujourd'hui, on ne fait plus trop attention à ce mot hot, mais ça a été un terme très marqué, hein, le Hot Club de France de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, les Hot Clubs, tout ça, c'était un signe qui renvoyait à cette musique-là pour l'opposer justement, en gros, ce qu'on appellera aujourd'hui des thés dansants ou des choses comme ça, des musiques un peu de divertissement grand public, qui pouvaient aussi s'appeler jazz. Et je souligne le fait que beaucoup de musiciens de jazz, notamment afro-américains, rejettent le terme de jazz très, très tôt, parce que c'est un terme qui est d'une part plus ou moins ordurier, hein. Jazz signifie fuck, hein, quand même, très très tôt et très durablement aussi, en plus, même musicalement, jazz évoque quelque chose qui est un petit peu cacophonique, un petit peu débridé, et beaucoup de musiciens ont considéré que c'était pas tout à fait rendre justice à cette musique que de l'appeler jazz. Hein, il y a même eu des concours pour trouver de meilleures désignations, et il y a beaucoup d'artistes qui ont développé leur propre terminologie. Il y a un article de Duke Ellington des années 40 où il parle de sa musique comme étant swing, parce qu'il dit que jazz, c'est un terme un petit peu péjoratif. Bon, il se trouve que ça s'est stabilisé et que jazz est devenu le nom de cette musique, mais j'insiste sur le fait que il n'y avait là aucune nécessité et que ça a été flottant pendant longtemps. Et que, d'une certaine manière, aujourd'hui encore, l'hésitation pour savoir ce qu'on appelle jazz reflète, au fond, peut-être cette hésitation première.
Dans le jazz, dans les termes qui sont utilisés, il y a beaucoup d'éléments du langage oral, du langage argotique, qui ont ensuite acquis leur lettre de noblesse et sont aujourd'hui passés dans le langage commun, comme jazz par exemple. C'est un terme qu'on emploie, y compris en français, sans chercher à le traduire. Est-ce que ça veut dire aussi que la langue orale, acquiert une légitimité par la musique, par l'usage des mots, la langue argotique, quitte ainsi son statut d'argot et de langue des bas-fonds ou de langue de groupes particuliers un peu marginaux pour devenir des mots utilisés par tout le monde et qui passent dans la langue courante?
Alors c'est vrai, oui, il y a un phénomène assez, en fait, qui concerne les mots du jazz comme le jazz lui-même, c'est que c'est un univers qui est passé dans la société, et donc inévitablement, vous avez un argot qui étant à la mode va être copié, qui étant copié et valorisé va plus ou moins, je dis bien plus ou moins, pénétrer le monde social plus large. Un mot emblématique, par exemple, c'est cool, qu'on emploie en français. Bon, cool, c'est un mot anglais qui a son sens, hein, c'est l'idée de froid, de fraîcheur, c'est apparenté à cold, d'ailleurs. Sauf que l'emploi proprement argotique, propre au monde du jazz, va être copié au point où on va en faire une espèce d'emblème de cette dimension d'initié, en fait, hein. Être cool, c'est être initié, c'est connaître l'argot, ça montre qu'on est à la mode. Il y a un autre terme qui est à peu près synonyme de cool, c'est le mot hip. Qui lui n'est pas passé en français. J'insiste d'ailleurs aussi sur le fait que souvent ce qu'on voit en français, ça n'est qu'une partie du sens des mots. Hein, cool conserve son sens de froideur et cool peut désigner une froideur, par exemple, expressive. C'est-à-dire qu'il y a pas, ça n'est pas que un compliment, c'est un mot qui a plusieurs sens. Et d'ailleurs, cool est devenu aussi un nom qui a pris une dimension esthétique, parce que ce qu'on appelle le cool, c'est une certaine esthétique, justement, qui met peut-être en retrait l'expressivité blues pour être plus proche de, disons que ça s'inspire de la culture classique, de l'amour des arrangements. Un disque évidemment de Miles Davis de 1949, Birth of the Cool. Donc on voit, vous voyez, un mot comme ça, à la fois c'est un mot de l'anglais qui va s'appliquer métaphoriquement à une esthétique. Du coup, ça devient le mot cool devient prend un sens historique, hein, dans le monde du jazz. Ça devient donc une métaphore esthétique. Ça prend un sens historico-esthétique. Et puis la dimension proprement argotique va aussi se développer au point où elle est passée donc en français. Donc on voit que les mots, ils ont plusieurs facettes et ils vont se développer plus ou moins d'ailleurs, hein, encore une fois, hip est peut-être plus moins développé, plus proprement afro-américain, et moins sorti en fait du groupe social dans lequel il a pris son essor. Mais c'est vrai, je dirais même de grossièreté. Motherfucker, typiquement, c'est quelque chose qui vient du monde du jazz, qui s'est répandu, qui reste un mot tabou. Donc c'est une oralité qui reste tabou, mais qui est devenue aussi un compliment dans le monde du jazz. If you're a bad motherfucker, c'est un compliment.
Comme quoi, les mots, il faut savoir où les utiliser. Le même mot dans un contexte différent peut effectivement être soit un compliment, soit une injure très, très grossière. Donc, il faut être prudent.
Oui, je conseille à la personne de l'utiliser parce que si vous n'êtes pas sociologiquement habilité, par exemple, si vous êtes francophone, c'est bizarre d'entendre quelqu'un employer un mot aussi, aussi marqué sociologiquement. Un petit peu comme si un étranger se mettait à utiliser des mots dialectaux en français, des mots propres, je sais pas, du sétois, du marseillais ou des choses comme ça. Ça, il y a une espèce de bizarrerie sociologique. Et de fait, ce sont aussi ce qui fait la valeur de ces mots, c'est la valeur au sens de leur sens dans un système, c'est que précisément ils sont propres à un groupe social et c'est ce que j'appelle la valeur de signalement, la valeur signalétique, c'est-à-dire qu'employer ces mots-là, ça signale que vous faites partie de cette communauté linguistique ou culturelle. Il y a donc une forme de connivence dans l'emploi de ces mots et c'est ce qui fait aussi cette dynamique de connivence sociologique, encore une fois d'initiation, qu'on a pu vouloir les copier. Et du coup, en les copiant, pour capter cette valeur un petit peu de distinction, eh bien, on les a répandus. Alors, certains se sont dilués, certains ne se sont pas développés, certains sont devenus désuets. Il y a toute une dynamique, mais propre à toutes les langues. Hein. Il y a un argot, comme en français, il y a un argot des années 50, il y a un argot du jazz qui est daté, et moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement tout ce qui, les mots du jazz, a perduré au point de prendre une dimension proprement mémorielle, au point où, justement, ces mots vont devenir des emblèmes culturels, vont avoir cette valeur signalétique et vont être des mots de ralliement en fait culturel et qui dépassent complètement justement l'identité afro-américaine tout en étant ancrés dedans. C'est là aussi où on a quelque chose de très original, c'est que c'est une culture ouverte et qui n'est pas du tout c'est une culture qui se partage. Hein. Il faut bien voir que le jazz s'est répandu internationalement et aujourd'hui il se joue partout. Il s'apprend ça a été un processus de rencontre culturelle aussi. Mais j'insiste sur le fait que ces mots, et c'est en fait pour ça que j'ai écrit ce bouquin, ce sont des mots qui ont une résonance culturelle particulière, qu'on ne perçoit pas toujours quand on est francophone. Et cette résonance culturelle, elle est liée à une esthétique. C'est ça qui est original, c'est que le jazz, c'est une musique, donc on est dans le domaine de l'esthétique, mais une musique qui est comme une caisse de résonance de dimension sociale, culturelle, proprement américaine. Signifie qu'il y a souvent des petits malentendus en fait aussi dans la compréhension de ces phénomènes.
On abordera un peu en fin d'émission la question notamment de la danse et puis du mouvement. Juste avant ça, sur la situation du jazz aujourd'hui, est-ce que c'est une musique qui est uniquement pratiquée par des Américains ou est-ce qu'on a des groupes de jazz européens, asiatiques ou alors, elle est restée dans le monde américain, alors pas du côté de ceux qui l'écoutent, où là, des frontières sont beaucoup plus vastes, mais du côté de ceux qui le pratiquent.
C'est une question tout à fait complexe, parce que là encore, on retombe sur la question du sens du mot jazz. Si on prend la France comme exemple, on a, plus de 300 festivals de jazz, quelque chose comme ça. Il y a qu'à regarder les programmes pour voir que très souvent, dans ce qu'on appelle festival de jazz, on a tout et n'importe quoi. On va avoir des musiques du monde, on va avoir de la variété, on va avoir de la pop, etc. Ça s'appelle pourtant jazz. c'est là où se pose la question de savoir si tout ce qui porte le nom de jazz est vraiment du jazz. Donc, on retombe sur des questions vraiment de terminologie. Bien sûr, le jazz est pratiqué dans le monde entier, mais il y a aussi beaucoup de musiques qui prétendent ou qui croient être du jazz et qui sont différentes fusions locales qui n'ont que peu à voir, évidemment, avec la musique de jazz telle qu'elle s'est développée historiquement. On a, en gros, on a un cœur définitoire du jazz et on a des choses qui sont à sa périphérie mais qui portent le même nom. Sur le plan de la dynamique historique et sociale, le jazz s'est développé notamment en Europe après la Seconde Guerre mondiale, par le fait qu'il y avait des bases américaines en Europe, et un certain nombre d'Américains se sont établis en Europe et ont diffusé leur culture, et des musiciens américains se sont installés en Europe durablement et ont tout simplement eu des disciples. Donc la période de l'après-guerre a été très très riche du point de vue de ces rencontres culturelles, et les musiciens de jazz européens étaient formés directement par leurs idoles, ces musiciens américains qui étaient sur le sol européen. C'est l'âge d'or du développement des festivals à partir des années 60 et de tous ces musiciens comme, je pense à Sidney Bechet, à Kenny Clarke, à Jimmy Gourlay, tous ces musiciens américains qui ont, Bill Coleman, qui ont vécu en France et qui ont eu des disciples. Alors évidemment, quand une génération ou deux après, on n'est plus dans cette dynamique. Le jazz s'est institutionnalisé, s'est développé une politique aussi européenne qui entend bien se distinguer sur un plan politique et idéologique des États-Unis, et aujourd'hui ce qu'on appelle le jazz européen, vous le devinez, dans un mot comme ça, il y a effectivement la volonté de se détacher d'une origine culturelle, ce qui signifie que ça n'est précisément plus du jazz, au sens où le jazz est un phénomène historique, sociologique et esthétique, et à partir du moment où on ajoute un adjectif, eh bien, on parle d'un autre phénomène, peut-être inspiré par le jazz, assurément même, qui en est issu, et notamment au terme du processus dont je viens de parler, mais on aboutit à quelque chose qui est nécessairement différent. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce bouquin en ayant une approche thématique. Parce que très souvent, on a des histoires du jazz qui sont chronologiques et qui laissent penser qu'il y aurait une espèce de transformation et où le jazz, en gros, deviendrait autre chose que ce qu'il était. J'insiste sur le fait que le jazz existe toujours sous ses formes variées et qu'il reste vivant culturellement. Il reste ancré dans l'église, dans les marching bands, dans des pratiques américaines qui continuent d'exister, d'être dynamiques, c'est-à-dire que une fanfare louisianaise d'aujourd'hui n'est peut-être pas tout à fait ce qu'elle pouvait être il y a un siècle, mais ça continue à être ancré dans une culture. D'un point de vue européen, on ne parle quasiment pas de la même musique et évidemment pas de la même sociologie. D'où cette ambiguïté finalement d'appeler jazz des formes qui n'ont pas grand-chose à voir au fond. Le jazz tel qu'il est enseigné de manière, strictement technique en Europe, sans la dimension culturelle, ça ne va pas avoir les mêmes résonances que quelqu'un qui a appris le jazz à l'église à Chicago. Bon, on voit que du point de vue des références culturelles, religieuses, esthétiques, on ne va pas aboutir aux mêmes formes, tout simplement.
Dans votre ouvrage, il y a aussi un élément sur lequel vous insistez, qui est la notion de danse. Et et donc la notion de rythme, parce que le jazz, ce sont des sonorités, ce sont des mots, mais c'est aussi un rythme. On le voit d'ailleurs même physiquement, la manière dont les trompettistes ou les saxophonistes jouent, c'est extrêmement rythmé, eux-mêmes sont en mouvement, et donc vous soulignez l'importance de la danse, et puis cette question du moving et grooving, qui participe aussi au jazz.
Oui, c'est vraiment un des éléments qui a distingué le jazz dès le début, c'est sa rythmicité. C'est ce qui a vraiment permis de le distinguer. La plupart des termes qui ont fini par désigner des dimensions du rythmique proviennent du mouvement des danseurs, hein, swing, stomp, tout ça, ce sont des termes, jump, ce sont des termes qui ont désigné avant tout des mouvements de personnes qui dansent. Et par métonymie, ça a désigné la musique sur laquelle on dansait et du coup une interprétation rythmique. Et on a tout un vocabulaire qui va désigner justement les multiples nuances du mouvement, notamment, hein, il y a toute une composante qui est du côté de l'exultation, du défoulement, to rock, hein, et to roll, et to groove, etc. Tout ça, ce sont des termes qui vont exprimer ces dimensions-là, et il y a une foule de termes qui vont désigner des nuances. Tipping, par exemple, c'est une interprétation en légèreté du rythme. Vous allez avoir plein de termes comme ça qui vont caractériser la musique, parce qu'à l'origine, elle est faite pour être dansée. Et ça, c'est aussi ce qui caractérise le jazz, c'est cette rythmicité profonde. Et c'est, moi, je résume à la suite du musicologue Michel Laplace, le jazz, c'est swing plus blues. Ça, c'est vraiment la composante musicologique et culturelle première. C'est d'une part une expressivité blues qui est proprement afro-américaine et un traitement rythmique fondé donc sur cette dimension entraînante, et ça c'est le swing. Alors après, voilà, le swing a évolué pour intégrer d'autres élans rythmiques, hein. On peut aussi faire du jazz sur différents types de rythmes. Ça peut être en trois temps, ça peut être il y a des valses jazz, etc. Et ça n'est pas quelque chose de figé dans un style, mais cette dimension fondamentale, elle est aussi résumée bien sûr par le terme groove. Hein, groove, c'est un terme qui renvoie, qui désigne en fait le fait d'être. Groove, c'est un sillon. Hein, c'est comme si on ne pouvait pas sortir de ce sillon qui est tracé et dans lequel on est physiquement entraîné par la musique. Il y a une dimension très très marqué du rythme pour définir cette musique.
Est-ce que le jazz s'exprime uniquement en américain? Est-ce qu'on a des groupes de jazz qui ont fait en français, en allemand peut-être? Ou est-ce que cette musique est de manière peut-être définitive liée à une langue, en tout cas à un type de langue?
Alors, chaque milieu musical a développé son propre argot. Il y a un argot du jazz en français. Alors, en allemand, je ne connais pas, mais sûrement. Mais justement, ce qui est important, c'est de voir que ça se distingue culturellement. C'est-à-dire que tous les mots, par exemple, anglais, enfin, américains, tous les américanismes qu'on utilise en français, hein, cool, swing, etc., tous ces mots-là, on ne les emploie que dans une seule dimension. Je pense au mot soul, par exemple, on l'emploie pour parler de la musique soul, c'est-à-dire un genre. Bon, il se trouve qu'en anglais américain, soul, soulful, l'adjectif, c'est C'est un vrai concept et qui est beaucoup plus large, qui ne se réduit pas à un type de musique, mais une attitude vis-à-vis de la musique. Ça renvoie à l'idée de sincérité, mais aussi, c'est un terme très connoté, par un emploi vraiment afro-américain, soul est quasi synonyme de black, à partir des années 60. Et c'est une innovation, ça aussi, cet emploi du mot soul ou du mot funky, etc. Et donc, on a une résonance particulière de ce vocabulaire, c'est ce que j'ai voulu mettre en avant dans cet ouvrage, et que les adaptations locales, internationales qui existent, justement, soulignent cet écart. Et je pense que il faut en avoir conscience. Pour bien comprendre la culture du jazz, ou le jazz comme culture, il faut passer par ce qu'il exprime. Et de ce point de vue-là, le jazz est un phénomène historique, esthétique, culturel, qui est proprement américain. Son originalité a aussi été de se développer dans le monde entier, mais sans doute avec des distorsions qui font qu'on ne parle peut-être plus tout à fait du même objet.
Eh bien, merci beaucoup, Jean Samovitch, d'avoir évoqué pour Conflit ces questions lexicologiques du jazz. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui est paru aux presses universitaires du Midi, Jazz Talk, approche lexicologique, esthétique et culturelle du jazz. Toutes les références sont à retrouver, comme chaque semaine, sur le site internet de Conflit, site internet sur lequel vous pouvez également acquérir les anciens numéros et aussi vous abonner donc sur revueconflit.com. Merci beaucoup pour votre fidélité à nos émissions et je vous retrouve la semaine prochaine.